entretient des controverses autour de notre galaxie.
En dépit de la prééminence des grandes galaxies elliptiques et spirales, il semble que l'exposition à la télévision aurait pour objectif de renforcer l'image des collectivités locales.
À distance, c'est le nom d'un cycle culturel d'art contemporain organisé jusqu'au 29 novembre à l'être-lieu au sein de la cité scolaire Gambetta Carnot à Arras. Dans ce cadre, l'être-lieu propose une expo intitulée « Le vide de la distance n'est nulle part ailleurs ».
Par ailleurs, il faut bien admettre la possibilité d'un troisième chemin.
Rencontre avec l'artiste, auteur de cette installation plastique, vidéo et sonore.
Je m'appelle Véronique Bélin, je suis l'artiste en résidence à l'être-lieu ici depuis le 15 septembre. Je suis québécoise d'origine. Je suis venue en France pour faire mes études au Frénois à Tourcoing. En 2010-2012, donc ça fait un peu plus d'un an que je suis diplômée. Et depuis, je suis dans la région et puis je fais beaucoup d'interventions comme ça, soit dans les écoles, lycées, pour amener un peu finalement les jeunes à rencontrer l'art contemporain dans leur milieu scolaire.
Alors quelle est l'idée ici de votre résidence à la cité scolaire Gambetta Carnot?
Donc l'idée est venue, faut savoir que l'année dernière, je suis venue à l'être-lieu pour faire une exposition. Et qu'à l'époque, Grégory Fenoglio, qui est le responsable de l'être-lieu, avait déjà vu l'installation qui est présentée ici en ce moment, donc « This is Major Tom to Ground Control ». Et il avait le souhait de la présenter ici pour l'inauguration du lieu. Malheureusement, l'installation a beaucoup tourné, donc elle était partie ailleurs, je pense qu'elle était à Vilnius à ce moment-là. Et donc, j'avais produit une autre œuvre sur commande pour l'inauguration. On avait parlé de l'idée de la résidence et donc du coup, comme l'installation est libre pour la première fois en un an et demi, on s'est dit c'est le moment de l'emmener dans l'espace à l'être-lieu, ce qu'on a fait. Donc du coup, comme je travaillais à partir d'une œuvre que j'ai déjà réalisée dans le passé, mon travail de résidence ici a tourné autour de cette œuvre-là, mais pour produire aussi une nouvelle pièce que je présente, qui est une série de photos reprend un peu le travail fait en résidence ici à l'être-lieu.
On va parler de cette œuvre, donc « This is Major Tom to Ground Control ». Quelle est l'idée de cette œuvre en fait?
En fait, c'est une installation multimédia qui comprend un générateur de texte aléatoire qui est activé par la réception, l'analyse d'ondes radio qui proviennent du cosmos. Donc ça a l'air assez complexe, mais en fait la manière dont ça fonctionne, c'est que suite à une entente avec l'Observatoire de Paris, j'ai pu avoir accès à un radiotélescope, un petit radiotélescope, qu'eux appellent de jardin, donc un petit radiotélescope, mais qui voit quand même ce qui se passe dans la Voie lactée. Et du coup, je recueille ces données-là en temps réel, via Internet, et c'est finalement la manière dont, l'univers se comporte qui va influencer le générateur de texte aléatoire. Et donc, les ondes radio sont interprétées à la fois sous forme sonore, qu'on peut entendre dans l'installation, et à la fois sous forme de mots, parce que c'est ce qui vient mettre en marche le générateur de texte aléatoire. Donc le générateur, c'est un peu comme un enfant, finalement, à qui on aurait appris à parler. C'est-à-dire que c'est un programme informatique qui a été conçu par Guillaume Libersa, un programmeur de la région lilloise, qui finalement a construit un logiciel qui apprend de manière statistique comment les mots s'enchaînent les uns derrière les autres dans la langue française. Et du coup, par cette alimentation-là de données constantes, on arrive à faire parler la machine, la voix de synthèse, à créer un texte somme toute cohérent.
Quand vous dites les ondes émises par l'univers, par le cosmos, de quoi s'agit-il exactement? C'est les mouvements des étoiles, c'est ça?
Oui, il y a plusieurs facteurs. En fait, c'est que la plupart des objets célestes émettent différentes fréquences et qui, pour la plupart, se situent, dans le spectre des ondes radio. Donc, les astres vont émettre comme ça les ondes. Et puis, effectivement, les mouvements de déplacement, les composantes, par exemple, d'hydrogène, toutes sortes de données très, très scientifiques, très pointues, sont perceptibles par ce phénomène-là d'émission d'ondes radio.
Donc ici, il y a une voix qui lit les textes qui sont produits, et puis aussi une installation avec aussi une imprimante qui imprime, c'est ça?
Voilà, c'est exactement ça. Donc les ondes sont traitées, transformées sous forme de texte. Le texte est lu par une voix de synthèse, voilà, qui récite comme ça, une voix très très désincarnée, hein, qui récite, qui débite le texte. Et tout le texte est imprimé aussi en temps réel sur imprimante matricielle. Et à la fin de chaque jour d'exposition, on imprime en moyenne 150 pages par journée d'exposition. Et ces 150 pages-là sont reliées sous la forme d'un livre et placées sur l'étagère, voilà, qui fait partie de l'installation aussi. Donc tout, on va dire, tous les messages reçus du cosmos, si on veut dire ça comme ça, sont archivés et placés dans cette bibliothèque-là au fil du temps. Donc là, ça fait un an et demi que l'installation tourne sans arrêt. J'ai presque 200 livres qui ont été imprimés et ils sont tous là et consultables pour le spectateur qui a envie de voir, par exemple, s'il y a une journée précise, voilà, qu'est-ce que l'univers a dit de beau.
Alors, qu'est-ce qui raconte l'univers?
Surtout des choses assez loufoques. C'est assez drôle en général, parce que c'est du texte qui finalement est assez construit. On pourrait avoir l'impression, voilà, que c'est un texte très intelligible, mais on se rend vite compte quand on tend l'oreille que ça ne fait pas vraiment de sens.
On ne retrouve ce type de raisonnement que pour l'écologie, dont la gravité peut certes varier grandement, mais qui vous propose un dédommagement pour le préjudice subi.
C'est un peu pour moi comme un oracle, c'est-à-dire que c'est toujours émis un peu sous la forme de grandes vérités, comme ça, et qui porte quand même... c'est quand même matière à questionnement pour le spectateur. Par exemple, le titre de l'exposition, ici, à l'être lieu, c'est la reprise de la première phrase qui a été produite par le générateur de texte. Donc, quand on a branché la machine sur le radiotélescope, la toute première phrase qui a été dite, c'est « Le vide de la distance n'est nulle part ailleurs ». Donc concrètement, ça ne veut rien dire, sauf que quand on s'y arrête, on pourrait faire presque une disserte de philo là-dessus. Donc c'est vraiment des phrases comme ça qui ne sont pas forcément... La voix ne parle jamais au jeu ou ce n'est pas un discours personnel. Au contraire, on est plutôt dans l'émission de différentes oracles ou sortes de prédictions, je ne sais trop. Voilà. Donc il y a matière à questionnement pour l'individu.
Alors 200 livres, je crois savoir aussi que vous les lisez, hein, ces livres, ça fait un travail quand même assez colossal. Un esprit sceptique pourrait dire, mais à quoi ça sert, quoi?
Ouais, ça c'est la bonne idée que j'ai eue quand je suis venue faire la résidence ici, parce que ça faisait un moment que la pièce avait été lancée comme ça, qu'elle tournait, et j'avais jamais eu vraiment accès au contenu des livres. Et c'est vrai que j'étais curieuse parce que j'avais envie de savoir ce qui avait été produit comme texte. Et donc, dans le cadre de la résidence, j'ai entrepris de lire ces livres-là. Je n'ai pas fini, je l'avoue. C'était sur une résidence de 45 jours. Je suis venue tous les jours et j'ai lu en moyenne 2-3 livres par jour avec une attention qui varie en fonction du moment de la journée. J'ai consigné, j'ai noté des bribes de texte. Tout ce qui m'intéressait, finalement, je le notais. Et je scannais aussi les pages des livres, là où il y avait des fragments intéressants, des choses qui m'interpellaient moi, parce que j'avais envie de créer une matière aussi pour un travail futur d'édition d'un livre, comme ça on va dire des meilleurs moments de Major Tom. Mais donc j'ai lu je ne sais pas combien de livres, peut-être même pas la moitié, peut-être un peu plus que la moitié, je ne sais trop. Et du coup, finalement, mon temps de résidence, c'était 45 jours. J'avais l'impression de revivre 45 fois la même journée. C'était un peu le jour de la marmotte, c'est-à-dire que je revenais faire à chaque fois la même chose. Mais c'est un travail qui était finalement très intéressant parce que j'ai eu l'impression que le temps était plus des journées qui s'enfilent les unes derrière les autres et que non, j'avais l'impression de revivre le même moment. Et c'est pour ça que j'ai travaillé à la série photographique qui est aussi présentée dans l'exposition, pour donner une impression au spectateur de mon vécu pendant ces 45 jours de résidence et où je présente des photos où le temps est aplati, où finalement tous les fragments temporels de ma résidence sont placés sur une même image et où on n'arrive plus à distinguer le début de la fin. Tout ce qu'on voit, c'est des moments qui se chevauchent et qui se superposent.
Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette démarche? C'est ce mélange de science, finalement, langage scientifique, et puis le côté un petit peu poétique aussi qui peut se dégager de cette froideur scientifique, peut-être?
Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai une grande fascination pour les sciences, pour les mathématiques, mais j'ai pas du tout un esprit cartésien, donc du coup je n'y comprends rien, mais pour moi c'est vraiment des matières, des potentiels de création énormes, c'est une source d'inspiration en fait. Et du coup, donc ce travail scientifique-là, ouais, c'est exactement ça. Mon idée c'était de venir faire une interprétation poétique d'un phénomène scientifique, c'est-à-dire que pour, par exemple, le générateur de texte plus précisément, Ce sont des données scientifiques que je reçois et que je transpose finalement sur le langage ou la linguistique pour essayer vraiment de traduire le phénomène scientifique vers un phénomène plutôt littéraire, poétique.
Ce qu'il faut dire, c'est que vous avez travaillé avec des, entre guillemets, vrais scientifiques, c'est-à-dire donc des gens hein, qui sont attachés à ça, à la linguistique automatisée et aussi donc à l'observation du cosmos.
Ouais, donc c'était vraiment une équipe de travail, hein, parce que c'est vrai que toute seule, j'aurais jamais pu réussir un travail d'une telle entreprise. Donc d'abord, il y a eu le contact avec les radioastronomes de l'Observatoire de Paris, le groupe EU, qui normalement travaille à familiariser les enfants avec la science. Donc pour eux, déjà, c'était intéressant de venir travailler avec moi parce que, bon, même si je détourne un peu leur travail, voilà, ça leur plaisait bien dans l'idée d'imaginaire d'avoir cette voix qui parle et tout ça. Donc on a travaillé ensemble à décrypter le signal reçu, à bien comprendre toutes les composantes du signal pour pouvoir bien les traduire justement en mots. Après coup, il y a eu le programmeur Guillaume Libersa qui a été vraiment le grand magicien qui a pu faire fonctionner le générateur et tout le programme informatique. Avec Guillaume, on a travaillé en collaboration avec le groupe de recherche Mostrare de l'Université de Lille, qui sont justement des chercheurs en linguistique et en, je ne me rappelle plus exactement, c'est bête, mais en littérature informatique, tout ça. Donc ils sont vraiment dans la statistique, l'apprentissage statistique par des logiciels. Du langage. Et donc, ils ont pu vraiment nous montrer, nous donner les clés pour arriver à créer ce générateur de texte aléatoire. Donc, vraiment, à nous donner le système qui s'appelle un système de n-gram. Donc, c'est un peu peut-être trop compliqué à expliquer comme ça, mais voilà, ils nous ont vraiment donné les clés pour arriver à créer ce logiciel qui fabrique du texte. Après coup, j'ai aussi travaillé avec un ingénieur du son pour arriver à restituer aussi le son de ces ondes qui viennent du cosmos. Donc, en faire aussi une interprétation sonore plutôt brute du travail. Donc, tous ces gens-là ont travaillé avec moi tout au long. Voilà, c'était pendant presque un an, en fait, de juin 2011 à juin 2012. J'étais en contact avec ces gens-là pour vraiment arriver à produire un truc qui fonctionne vraiment.
Les auditeurs sont devant le rideau derrière lequel Pythagore se dissimule.
Dernière partie de notre entretien avec Véronique Bélan, qui expose en ce moment à Arras, à l'être-lieu.
En cas de nécessité, un shampoing adapté peut être utilisé pour détecter une voleuse parmi trois infirmières.
L'impression sur le spectateur, sur l'auditeur, c'est à la fois le côté amusant, parce que peut-être l'univers sort des petites perles, mais aussi un peu ce côté inconnu de voix de l'univers qui nous parle, qui transparaît aussi au travers de cette œuvre.
Ouais, je pense que en fait chaque spectateur le prend vraiment de manière très personnelle. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des gens pour moi qui m'ont vraiment qui étaient un peu fâchés de se retrouver là parce qu'ils avaient l'impression que j'étais en train de toucher à Dieu, alors que pas du tout. Hein, j'essaie de leur expliquer voilà, que c'est un travail d'interprétation et mais pour eux ça semblait tellement réel qu'il puisse y avoir cette voix qui vient du cosmos qu'ils étaient à fond dedans, on peut dire. Et puis pour d'autres, ils vont trouver rigolo de trouver des perles comme ça, des phrases complètement loufoques qui sont dites. Je pense qu'on a tous notre manière de l'appréhender. Après, c'est vrai que moi, pendant cette période, de ce temps de création de 2011 à 2012, on était en plein dans cette saga de fin du monde du 21 décembre 2012 et tout ça. Et c'est vrai qu'à quelque part, ça m'a aussi inspirée parce que j'avais l'impression que le monde entier était à la recherche de croyances auxquelles se rattacher dans cette espèce d'urgence au cas où ce serait vrai finalement que ça va être la fin du monde. Et puis du coup je me suis dit en fait c'est ce qu'il faut faire, c'est prendre quelque chose d'aléatoire, de complètement absurde et de voir à quel point on est capable aussi d'aller plaquer du sens sur ce contenu. Et c'est ce qui se passe en fait naturellement pour l'être humain, je pense, d'essayer de venir donner du sens à ce qu'on entend et à l'interpréter pour soi.
Vous l'avez dit, cette expo a pas mal voyagé, elle est en ce moment à Arras, donc pour quelques jours, quelques semaines. Ensuite, quel chemin prendra l'univers alors ?
L'univers sera à Montpellier au début de l'hiver, au mois de février, si ma mémoire est bonne. Et après, bah, c'est toujours voilà, en démarche. J'espère pouvoir la ramener au Québec, de là où je viens, incessamment sous peu. on verra. Mais voilà, donc il y a encore des dates comme ça de programmer. Donc l'univers va continuer de nous parler encore pendant un moment.
Le dernier mot, c'est sur le travail avec les élèves. Comment ça s'est passé alors avec les élèves
Bah, du coup, on a travaillé sous forme presque de classe, on va dire avec des horaires réguliers. Donc une heure par semaine, je rencontrais les élèves des, voilà, des classes préparatoires. Et puis on parlait de l'installation, voilà, du travail, bon, parce qu'il y a tout un journal aussi qui est créé autour de l'événement. Et voilà, et donc on travaillait ensemble parce qu'eux-mêmes ont produit des œuvres ou des textes autour de l'installation. Donc voilà, on s'est vu comme ça pendant 2 mois sur fréquence régulière. Et puis après, mais comme j'étais toujours dans mon bureau, dans mon atelier, ils pouvaient passer me voir. Et puis voilà, on discutait de manière plutôt informelle. Mais du coup, ils ont vraiment vu et suivi mon travail de résidence. Et je pense qu'ils ont été à même aussi de voir à chaud comment on construit une œuvre. Et puis je pense que c'était très intéressant, à la fois pour moi, de devoir parler du travail en cours, ce qui n'est pas forcément facile quand on ne sait pas vraiment encore où on s'en va. Et c'est intéressant pour eux aussi de voir la genèse de l'œuvre et de voir comment, au fil du temps, ça peut se créer. Donc c'était un contact très enrichissant des deux côtés, autant pour l'artiste que pour les élèves.
Véronique Bélan, artiste contemporaine qui expose le vide de la distance nulle part ailleurs. C'est à voir et entendre jusqu'au 29 novembre à Arras, à Lettre-Lieu, ce centre culturel situé au sein de la cité scolaire Gambetta Carnot. Ça fait partie d'un cycle culturel d'art contemporain sur le thème à distance, avec tout un tas d'événements organisés qui vont de la performance théâtrale aux rencontres et aux conférences, et notamment aujourd'hui. Il y a une rencontre en partenariat avec Cité Philo, avec Marc Parmentier, qui est maître de conférence à l'université Charles de Gaulle Lille 3 sur le thème « Identité, sociabilité, désir à l'heure d'Internet ». Ça se passe donc aujourd'hui à 17h à Lettre-Lieu. On s'excuse au passage pour celles et ceux qui nous écoutent le soir, pour qui ce sera trop tard. Vous trouverez aussi d'abord sur internet, sur notre site libre et sans pub, www.radiopfm.com, l'interview de Grégory Fenoglio, qui est l'un des professeurs qui s'occupe de Lettre-Lieu. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ce cycle à distance, sur la démarche de Lettre-Lieu, sur son rapport au lycée, aux lycéens et au public arageois, donc ça se passe sur notre site internet. Et puis sur PFM, toute cette semaine, vous retrouverez des petits extraits sonores de la bande-son de l'expo qui seront disséminés dans la programmation de votre radio associative préférée. Et puis ce samedi, l'univers s'exprimera en exclusivité sur PFM à partir de 21h30 jusqu'à tard dans la nuit. Allez.